Section 1, une vocation sainte. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Chapitre 1, ambassadeur du Christ. À chaque époque de l'histoire du monde, Dieu s'est choisi, au moment opportun, des serviteurs auxquels il a déclaré, « Vous êtes mes témoins ». Chaque génération a vu, en effet, des hommes consacrés recevoir d'en haut la lumière et communiquer à leurs contemporains le message du ciel. Hénoc, Noé, Moïse, Daniel, les patriarches et les prophètes furent tous des ministres de la justice divine. Ils n'étaient pas infaillibles, mais faibles et sujets à l'erreur. Le Seigneur accepta cependant le don qu'ils avaient fait d'eux-mêmes en se mettant à son service. Depuis son ascension, le Christ, en tant que chef suprême de l'Église, a poursuivi son œuvre dans le monde par le moyen de messagers qui parlent de sa part aux humains et leur accordent le secours de leur ministère. Ces messagers, appelés par Dieu à prêcher et à enseigner pour l'édification de son Église, ont une lourde responsabilité. Ambassadeurs du Christ, qui leur donnent la puissance et la sagesse nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, ils doivent presser les hommes de se réconcilier avec Dieu. Ces serviteurs du Très-Haut sont représentés dans l'Apocalypse par les sept étoiles, dont celui qui est le premier et le dernier prend un soin tout spécial. C'est à eux qu'il incombe de faire régner dans l'Église la douce atmosphère de l'amour du Christ. Les astres obéissent à Dieu. C'est lui qui les fait resplendir au firmament et dirige leur course. Sans lui, ils erraient dans la nuit. Il en est de même pour ses serviteurs. Ils ne sont que des instruments entre ses mains et leur œuvre tout entière est le fait de sa puissance. Avec l'aide du Saint-Esprit, ils répandront plus de lumière sur l'Église que les étoiles sur le monde, glorifiant ainsi le Christ. C'est le Sauveur lui-même qui les animera. Ils feront les œuvres de Jésus, s'ils regardent à lui comme lui-même regardait à son Père, et, s'ils s'appuient fermement sur lui, ils brilleront aussi de tout son éclat. Sentinelles spirituelles. Les ministres du Christ sont les gardiens spirituels du peuple confié à leurs soins. Leur rôle a été comparé à celui d'une sentinelle. Autrefois, on plaçait des guetteurs sur les remparts d'une ville où ils pouvaient, de certains points convenablement choisis, surveiller efficacement les secteurs importants et donner l'alarme à l'approche de l'ennemi. De leur vigilance dépendait la sécurité de tous les habitants de la ville. Par intervalle, ils devaient s'appeler mutuellement afin de se tenir en éveil et de s'assurer qu'il n'était pas arrivé malheur à l'un d'entre eux. Ces appels, destinés à réconforter et à stimuler chaque sentinelle, passaient de proche en proche, faisant ainsi le tour de la ville. À chacun de ses serviteurs, le Seigneur déclare, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, tu sauveras ton âme. » Ces paroles du prophète établissent la solennelle responsabilité de ceux qui ont été désignés comme gardiens de l'Église et dispensateurs des mystères de Dieu. Ils doivent se tenir ainsi que des sentinelles sur les murs de Sion, pour donner l'alarme à l'approche de l'ennemi. Si, pour une raison quelconque, leurs sens spirituels s'engourdissent au point de les rendre incapables de discerner le danger, et si, faute de leurs avertissements, des hommes périssent, Dieu leur redemandera le sang de ceux qui seront perdus. Ils ont le privilège de vivre si près de Dieu et d'être si sensibles à l'influence de son esprit que le Seigneur peut agir par leur intermédiaire et ramener dans la bonne voie les âmes en péril. Choisis par Dieu et scellés par le sang de l'Alliance, ils ont pour devoir d'arracher hommes et femmes à la destruction qui les menace. Fidèles à leur mission, ils avertiront leurs semblables des conséquences inéluctables du péché et défendront en même temps les intérêts de l'Église. Leur vigilance ne se relâchera jamais. Certes, c'est une œuvre qui fait appel à toutes les facultés de leur être. Leur voix doit s'élever avec force comme le son de la trompette et ne jamais donner une note hésitante ou incertaine. S'ils travaillent, ce n'est pas pour un salaire. Mais ils connaissent la malédiction qui pèserait sur eux s'ils ne prêchaient l'évangile, et il leur est impossible d'agir autrement. Fidélité dans le service. Celui qui collabore avec le Christ doit avoir une pleine conscience du caractère sacré de sa tâche et de la nécessité de n'épargner ni peine ni sacrifice pour la mener à bien. Il ne recherche ni ses aises, ni ses convenances, mais il s'oublie lui-même. Dans ses efforts pour retrouver la brebis perdue, il ne se rend même pas compte qu'il est fatigué, qu'il a froid, qu'il a faim. Une seule chose importe pour lui, le salut des pécheurs. Celui qui sert sous la bannière sanglante d'Emmanuel est souvent amené à fournir des efforts qui vont jusqu'à l'héroïsme et appelé à faire preuve d'une patience inlassable. Le soldat de la croix se tient indéfectiblement au premier rang de la bataille. Plus l'ennemi intensifie ses attaques, plus il recherche le secours du Tout-Puissant, et, s'il réclame du Seigneur l'accomplissement des promesses contenues dans sa parole, il en recevra les forces nécessaires aux besoins de l'heure. Il sent bien qu'il ne peut rien sans le secours d'en haut. Les victoires qu'il remporte ne le poussent pas à l'orgueil, mais l'incitent au contraire à s'appuyer de plus en plus sur la puissance de Dieu. C'est grâce à cette puissance qu'il sera capable d'annoncer la bonne nouvelle du salut de manière à toucher les cœurs. Le Seigneur envoie ses serviteurs pour prêcher la parole de vie et non la philosophie ou une vaine tromperie, ni la fausse science, mais l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul écrit à Timothée, « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Cette adjuration de l'apôtre indique son devoir à chaque serviteur de Dieu, devoir qu'il ne peut remplir que par l'accomplissement de la promesse de Jésus à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un ministre de l'Évangile, qui est un ambassadeur de Dieu auprès de ses semblables, ne devrait jamais oublier les responsabilités de sa charge. S'il perdait contact avec le ciel, il serait plus en danger qu'aucun autre et aurait une influence plus néfaste. Satan le guette sans cesse, cherchant quelle faiblesse il pourrait accroître en lui, par laquelle il trouverait occasion de le faire tomber. Quelle victoire quand il y parvient! Car la chute d'un ambassadeur du Christ permet au grand adversaire de séduire beaucoup d'âmes. Un authentique serviteur de Dieu ne fera rien qui puisse porter atteinte au caractère sacré de son ministère. Il se conduira avec circonspection, agira avec prudence, à l'exemple du Christ, s'emploiera de toute son énergie à apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui l'ignorent. Son cœur aura soif de la justice du Christ. Conscient de son néant, il recherchera avidement la puissance dont il doit être rempli pour pouvoir présenter simplement, fidèlement et humblement la vérité telle qu'elle réside en Jésus. Exemple de fermeté humaine. Les serviteurs de Dieu ne sont pas reconnus comme tels par le monde, qui ne les comble pas d'honneur. Étienne a été lapidé parce qu'il prêchait le Christ, et le Christ crucifié. Paul a été emprisonné, battu, lapidé et finalement mis à mort, parce qu'il fut le fidèle messager de Dieu aux nations païennes. L'apôtre Jean a été banni dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ces exemples de fermeté humaine, dus à la puissance divine, prouve au monde la fidélité de Dieu à ses promesses, la constance de sa présence et la force de sa grâce. L'avenir des ennemis de Dieu ne s'illumine d'aucun espoir d'immortalité glorieuse. Un grand chef militaire conquiert les nations et défait les armées de la moitié du globe. Mais il meurt de déception en exil. Le savant parcourt en pensée l'univers, décrivant les manifestations de la puissance de Dieu et se complaisant dans leur harmonie. Mais il discerne rarement, dans toutes ces merveilles, la main de celui qui les a faites. L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, est semblable aux bêtes que l'on égorge. Quant aux héros de la foi, ils posséderont un héritage supérieur à toutes les richesses de la terre, et qui répondra pleinement aux aspirations de leur âme. Le monde peut les ignorer ou les méconnaître, mais leurs noms sont inscrits dans les livres des cieux. Une sublime grandeur et un poids éternel de gloire les attendent. Amener des pécheurs à la croix est l'œuvre la plus grandiose qu'un homme puisse entreprendre et qui mérite ses efforts les plus nobles. C'est avec le Seigneur, et pour l'accomplissement de ses desseins, que travaille le véritable ministre de l'Évangile. Dieu lui dit, « Va et prêche le Christ. Enseigne tous ceux qui ignorent sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Instruis les hommes. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne !» Éclatez en cris de joie, ruine de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ceux qui travaillent pour le Christ ne doivent jamais penser et encore moins dire qu'ils pourraient échouer. Le Seigneur Jésus est le garant de notre réussite. Son esprit doit nous inspirer, et, tant que nous nous remettrons entre ses mains pour être des instruments dociles, nos possibilités de faire le bien ne seront jamais épuisées. Nous pouvons continuellement en appeler à sa toute-puissance et recevoir ses intarissables bénédictions.